Bon, quand Olivier Cohen m'a demandé d'intervenir à Paris, j'ai proposé le thème de Moïse, qui est extrêmement central, aussi bien dans le judaïsme que dans l'enseignement de Manitou. Si je voulais faire un peu de psychanalyse, je pourrais parler de surmoi. Vous savez que Freud, du point de vue de l'analyse psychanalytique de Freud, on peut dire qu'il se prenait pour Moïse. Si je repense la manière dont ça se traduit chez Manitou, Manitou prenait comme modèle de son parcours personnel la personnalité de Moïse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film de Spielberg, Le Prince d'Égypte. Vous voyez là-bas, vers la fin du film, je ne sais pas si Spielberg était courant, mais le visage de Moïse à la fin du film ressemble de manière étonnante à celui de Manitou. Oui. Oui. Je fais un peu publicité. Maintenant, pour passer un peu à la chose elle-même, il faut savoir que il faut éviter, et ça Manitou insistait beaucoup là-dessus, il faut éviter de mythologiser les grandes figures de la Bible. C'est-à-dire, il y a une tendance qu'on retrouve, par exemple, dans le christianisme, à transformer des personnes en mythes. Et ça empêche de comprendre la complexité et l'humanité de la personne dont on parle. Et là, ce que nous allons analyser, c'est nous allons analyser qui est Moïse selon la tradition d'Israël et comment est-ce que Manitou a mis cela en valeur. Tout d'abord, prenons un enseignement de la Mishnah. La Mishnah, dans le traité de Avot, la toute première Mishnah nous donne une définition de qui était Moshe. Et la Mishnah nous dit Moshe Kibel. Moshe a reçu. Eh bien, le Maharal de Prague disait, ben, c'est ça que ça veut dire. Moshe, c'est celui qui reçoit. Être capable de recevoir. Et de ce point de vue-là, Moïse est le contraire du maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Tandis que Moïse est tout d'abord un élève. Et c'est pour ça que les maîtres dans la tradition d'Israël sont appelés des élèves. Quand vous parlez d'un maître sérieux en Torah, eh bien vous dites c'est un Talmid Chachamim, c'est l'élève des sages, ou Talmid Chacham, l'élève d'un sage. Et Manitou disait toujours un maître, c'est celui qui a eu un maître. Un rave, c'est celui qui a eu un rave. S'il n'a pas eu de rave, eh bien c'est un philosophe, c'est un sage, mais ce n'est pas un maître de la Torah. Et d'ailleurs, comme me l'a demandé tout à l'heure Antoine Mercier, comment se fait-il que tant de gens, quand ils écoutaient Manitou, avaient le sentiment qu'il leur parlait directement? Il dit, il a donné une conférence, mais en fait, c'est à moi qu'il parlait. Et bien en fait, tout le monde disait la même chose. Tout le monde disait, c'est à moi qu'il parlait. Or, les gens sont quand même différents. Et Antoine me demandait, mais comment est-ce que Manitou est capable de faire ça? Et bien, la réponse est très simple, c'est que ce n'était pas Manitou qui parlait. Manitou disait, ce n'est pas soi qui parle. Manitou se savait dépositaire d'une tradition, et donc quand le maître parle, c'est cette tradition qui parle à travers lui. Donc il est transcendé par cette tradition, et c'est comme ça que chacun ressent ce que cette tradition a à dire à lui, à une condition évidemment que cette tradition soit authentique. Et donc, si je reprends la capacité qu'avait Moshe, c'était justement d'être celui qui reçoit. Et si je continue la Mishnah dans le traité de Avot, Moshe Kibel Torah, Moshe a reçu la Torah. Mais si on traduit précisément en français, ça veut dire Moshe a reçu une Torah. Parce que si on dit qu'il a reçu la Torah, ça se dirait en hébreu et ha-Torah. Moïse a reçu une Torah. Tiens donc, alors il y en aurait d'autres? Non, ça veut dire, comme dit le Maharal de Prague, enseigné par Manitou, ça veut dire que Moshe était capable de recevoir tout ce qu'on peut recevoir. Il a reçu donc une Torah. Il n'a pas reçu la Torah. La Torah, c'est l'ordre du monde, Sedera Olam, la structure fondamentale de tout être. Et ça, c'est inaccessible. Ça appartient à Dieu. Mais il y a de cette Ha-Torah, il y a une Torah qui arrive à nous. C'est la différence employée par le roi David dans le premier des psaumes, quand il est dit Betorat Hashem Cheftso. Le tzaddik veut la Torah de Dieu, mais en vérité, Betorato Yehege, il ne s'occupe que de sa Torah à lui. Et donc, il y a une réduction de l'infinité de la Torah à travers la capacité réceptive de Moshe. Moshe qui belle Torah. Mais comment est-ce qu'il a pu recevoir une Torah? Eh bien, la réponse, c'est Missinaï. Il l'a reçue parce qu'il était comme le Sinaï. Le Sinaï, c'est la petite montagne, ce n'est pas la haute montagne. C'est-à-dire la capacité d'être petit. Ce n'est pas la capacité d'être grand qui fait qu'on est grand, c'est la capacité d'être petit qui est grand. Et le Zohar le dit en toutes lettres. Dehihu Zahir, ihu Rav. C'est celui qui est petit qui est grand. Mais celui qui est grand, il est tout petit. Parce que quand on est grand, on est petit par rapport à l'infini. On est infiniment petit. Tandis que quand on est capable d'être petit, alors on est capable d'être en contact avec l'infini. Alors on devient grand. Et Manitou disait, si Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner la Torah sur l'Himalaya, rendez-vous au pied de l'Everest. Ça aurait voulu dire que cette Torah est quelque chose d'inaccessible. En tout cas, que pour quelques élus extrêmement doués. Il faut être, pour un élève de Kant, il faut être très fort en philosophie. Et tandis que pour être un élève de Dieu, il faut savoir simplement l'entendre. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée au bon Sinaï, et c'est cette capacité qu'avait Moïse d'être le receveur qui a fait de lui ce qu'il était. Au niveau moral, ça s'appelle Anava, la modestie. Et il est significatif justement de voir comment est-ce que la modestie, là c'est le premier thème que je voudrais aborder avec vous, justement appréhender la personnalité de Moïse à travers la modestie. C'est remarquable de voir comment est-ce que la modestie a été traitée par les traditions humaines. Et là je voudrais vous citer un texte du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui dit dans son Messilat Yesharim, vous allez dire que c'est banal, mais ça a besoin d'être dit quand même, c'est que la modestie c'est bien et que l'orgueil c'est mal. Bon, c'est très bien, n'est-ce pas? Et ce livre, Messilat Yesharim, a été écrit par le Ramchal lorsqu'il habitait à Amsterdam. Un siècle avant Ramchal, à Amsterdam, a été écrit un livre d'éthique, également par un juif. Ce livre s'appelait « L'éthique », écrit par Spinoza. Et il fait deux remarques. D'une part, que l'orgueil, c'est mal, et que la modestie, c'est mal. C'est-à-dire, il condamne l'orgueil, étant une forme de bêtise, mais la modestie, il dit, c'est une faiblesse, une faiblesse de l'être. Et vous voyez que Spinoza est obnubilé justement par l'être. Une faiblesse de l'être ne peut être qu'un mal. Donc, il condamne la modestie et il propose donc... Mais il dit simplement qu'il est bon que l'entourage du sage continue à avoir de la considération pour la modestie pour qu'il ne s'attaque pas au sage. Le sage, en l'occurrence, Spinoza lui-même. Et... La raison de cette différence, c'est-à-dire le judaïsme traditionnel qui considère que la modestie est une bonne chose et Spinoza qui considère que c'est une mauvaise chose, a une origine métaphysique. Étant donné que Spinoza est panthéiste, par rapport à quoi je serais véritablement modeste? Par rapport à moi-même, c'est une faiblesse. Tandis que pour le judaïsme, la prophétie a une origine transcendante. C'est par rapport à la transcendance que je suis modeste. Donc, ça a un sens. Donc, vous voyez bien que c'est très important, le fait d'être capable de se mettre en rapport avec l'infini pour recevoir une Torah authentique. Et bon, ça, c'est le point fondamental de Moïse, cette identité de celui qui sait recevoir. À la fin de notre étude, je pense revenir à ce thème. Mais nous allons d'abord passer immédiatement. Si quelque chose n'est pas clair, c'est le moment de poser la question. Parce que, en général, quand je donne un cours, je commence par des choses simples et après ça se complique. Ça veut dire que si quelque chose n'est pas clair maintenant, il n'y a aucun espoir que la suite de l'enseignement éclaircisse ce qui n'est pas clair au début. Alors, si quelque chose n'est pas clair, c'est le moment de le faire. Allez-y.
Il faut vous lever, excusez-moi, on vous entend.
Alors, je reprends la question. Ouais, est-ce que quand j'ai parlé de la Torah en tant que structure primordiale de tout être, est-ce qu'il y a des textes qui en parlent? C'était ça la question? Oui. J'ai donc bien entendu. Bien sûr qu'il y a des textes qui en parlent. Le Maharal de Prague, par exemple, dans son Netivat Torah, consacre une dizaine de chapitres là-dessus. Également dans le Tiferet Israël, ce sont des choses bien connues. D'ailleurs, ça a son origine dans le Midrash Rabbah. « Yakadosh Baruch Hu istakel batorah uvara et haolam »« Le Saint béni soit-il, regardez dans la Torah pour créer le monde. » Donc c'était sa Torah à lui qu'il regardait, c'est pas celle que nous étudions, nous autres pauvres créatures. Bon, on peut continuer ?
Elle est censée arriver, cette Torah ?
Ah, ça... Ça, c'est un gros problème. Ça fait partie, si vous voulez, du projet de la révélation messianique, la Torah du temps du Messie.
Est-ce que, concernant la structure, ça pourrait pas être
ta menorah ? Alors, écoutez, ça, je vais rentrer dans des hypothèses personnelles. Je pense qu'on va continuer, d'accord ? Parce que si l'on va se rendre à... On va se rencontrer, si vous voulez, dans une avenue, à l'avenue du Messie. Bon. Vous continuez ?
Oui, oui.
Très bien. Si on se demande, mais qui c'est ce Moshe dont on parle tellement ? Alors, on se rend compte que dans les textes de la Torah, il est question de Moshe de deux manières différentes. La première fonction que remplit Moshe dans sa vie, c'est d'être le libérateur d'Israël. Et la Torah nous parle très longuement de l'histoire personnelle, de l'aventure personnel, sa trajectoire individuelle, de celui qui a sauvé Israël. Et on se demande pourquoi. Et la deuxième fonction que la Torah nous transmet à propos de Moïse, c'est qu'il est celui qui a donné la Torah. Et ça a l'air vraiment d'être deux choses totalement différentes. Il y avait, je reprends pour reprendre Moïse et le monothéisme de Freud, Freud a été tellement... surpris justement par cette dualité de la personnalité de Moïse, qu'il a été jusqu'à inventer qu'il y avait historiquement deux Moïse, un qui a fait sortir d'Égypte et un qui a donné la Torah. Parce qu'effectivement, on a le sentiment que ce sont vraiment deux fonctions totalement différentes. Il serait surprenant de voir que ces deux fonctions ont été remplies par le même personnage.
Excusez-moi, pourquoi ça serait si surprenant ?
Eh bien, tout simplement parce que sortir d'Égypte est une fonction politique, et tandis que donner la Torah, c'est... Ça a l'air d'être une fonction religieuse, en tout cas, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, vous savez que souvent on dit, mais pourquoi est-ce que les rabbins s'occupent de politique ? Et ce que j'ai l'habitude de dire, mais de quoi vous voulez qu'ils s'occupent ? C'est-à-dire, si la Torah porte en elle un message politique, elle est la doctrine politique du peuple hébraïque sur sa terre, alors il est évident que les rabbins s'en occupent de politique et pas d'autre chose. Mais en tout cas, ça c'est une donnée qui est enseignée. Mais l'intuition immédiate de toute personne, c'est que la libération nationale, c'est une chose, ça se fait par des hommes de guerre, par des hommes de politique, par des dirigeants, et tandis que la Torah, ça se fait dans l'intériorité du Beit HaMidrash, dans la Yeshiva, etc. D'accord ? Et donc, comment est-ce que ces deux projets, Moshe en tant que libérateur et Moshe en tant que celui qui donne la Torah, comment est-ce que ces deux projets se rejoignent ? Et il y a une tension entre ces deux projets qui se retrouve dans un tiraillement dans l'identité même de Moshe. Et là, je voudrais tout de suite rentrer dans les versets eux-mêmes, les versets de la Torah qui nous racontent l'histoire de Moshe en tant que libérateur d'Israël avant qu'il ne donne la Torah. Alors, commençons tout d'abord par qui sont les parents de Moshe. Et c'est très surprenant, on voit dans la Torah... Vayeler ish mi bet Lévi, vaikar et bet Lévi. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme la fille de Lévi. On pourrait pas dire leur nom, s'il vous plaît. Ben non, la Torah pense que c'est mieux de ne pas dire leur nom. Et puis après 3 mois, la femme enfante un fils. Vateled ben. Elle enfante un fils. Et on nous dit pas son nom. Vatitzpeneush losha irachim, elle le cacha pendant 3 mois. Vous imaginez bien que un enfant qui est gardé pendant 3 mois à la maison, il a un nom. On lui donne un nom quand même. Et le nom qui a été donné par la mère de Moïse à Moïse, eh bien ce nom n'apparaît pas dans la Torah.
C'était quoi ?
Ben, son nom c'était Tuvia, évidemment. Puisqu'il est écrit Vatere oto kitob hu, elle a vu qu'il était bon. En général, quand la Torah dit la réaction de la mère lors d'une naissance, c'est pour nous expliquer le nom. Donc s'il était bon, c'est qu'il avait un nom qui portait ce mot. Alors ça peut être Tuvia, ça peut être Tuviel, ça peut être Tubib, Yehotavel, mais en tout cas pas Moshe. Surtout qu'il était beau, pourquoi vous l'avez appelé Moshe? Cet enfant va naître, et cet enfant, qui a donc un nom hébraïque, mais qui n'est pas mentionné par la Torah, va être gardé au loin sur le Nil par sa sœur, on ne dit pas son nom non plus, et arrive la fille du Pharaon, dont on ne dit pas non plus le nom, et elle dit à la sœur, est-ce que tu peux me trouver une nourrice pour cet enfant? Elle lui amène la mère de l'enfant. Vous voyez qu'il y a une insistance très forte de la Torah à l'absence de nom. C'est comme si l'Égypte était celle qui efface les noms, qui efface les identités. Et ce qui se passe, c'est que finalement, la mère de l'enfant va le sevrer et l'amener chez la fille du Pharaon. Et là se passe quelque chose d'important, « Vatikra et Shemo Moshe ». Elle lui donna pour nom Moshe. Qui c'est elle? La fille du Pharaon l'a appelée Moshe. Or, Moshe est un mot égyptien. Moshe est un mot égyptien. Il y a deux interprétations possibles selon l'égyptien ancien. Soit que ça veut dire le fils. Donc, elle a eu un fils qu'elle a appelé fils. Soit ça veut dire l'eau. De l'eau. Et le texte de la Torah continue. « Vatomer ki minamai meshitiu. » Et elle dit, c'est parce que tu l'as sorti de l'eau. Qui c'est la deuxième « elle » Ben c'est la mère. La mère donne une interprétation hébraïsante à un nom égyptien. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si on disait, ben, en hébreu par exemple, glouton se dit gargéran. Alors, tu l'as appelé Georges parce qu'il est glouton. Donc, c'est la mère de Moshe voit que son fils va recevoir un nom égyptien, elle va donner une interprétation hébraïque au nom égyptien. Et donc, vous avez ici un individu qui a déjà un double nom. Un nom à double signification. Il est à la fois égyptien et hébreu. Et puis il grandit. Il grandit et il sait qu'il est, puisque la Torah dit « Vayigdal Moshe » et Moshe grandit. Et Rashi nous dit, ça veut dire quoi qu'il a grandi? Eh bien, ça veut dire qu'il est devenu le chef de la maison de Pharaon. Ça veut dire qu'il est devenu le dirigeant de l'Égypte. Donc, Moïse se sait le fils adoptif du Pharaon. Il sait qu'il est amené un jour à le remplacer, à devenir le prochain Pharaon. Mais il sait également qu'il est le fils d'Amram, le chef de la tribu de Lévi qui dirige le peuple d'Israël. Et donc, il est amené un jour à devenir roi d'Israël. Donc, vous comprenez la complexité du personnage. Il le sait. Dès le départ, il sait qu'il est un aiguillage de l'histoire. Il peut, à travers sa propre personne, continuer l'histoire d'Israël, mais ça serait au détriment de l'Égypte. Il peut continuer l'histoire de l'Égypte, à travers sa propre personne, mais c'est au détriment d'Israël. Et la Torah nous dit, « Vaïgdal Moshe, Moshe grandit. Vaïetze el Echav. » Il est sorti vers ses frères. Qui sont ses frères? Vous dites les Hébreux? Donc vous n'êtes pas d'accord avec Rabbi Avraham Ibn Ezra? Qu'est-ce qui vous a fait, le pauvre? Ça peut être les Égyptiens. Alors dans ce cas-là, vous ne serez pas d'accord avec le Ramban. Qu'est-ce qui vous a fait, lui? Vous comprenez que, déjà, les commentateurs de la Torah ont un problème. Qui sont les frères chez qui Moïse va se rendre? Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit les Égyptiens, et Nachmanide, Ramban, nous dit les Hébreux. Et qu'est-ce que Moshe y pensait, lui? Comme Ramban ou comme Ibn Ezra?
Comme les deux?
Comme les deux? Certainement pas. Pourquoi il est sorti, alors? Je pense qu'il est allé voir qui a raison. Il ne savait pas qui a raison. Il est allé voir, donc, qui sont ses frères. Et la Torah continue, elle dit « Vayar besivlotam ». Il a vu leurs travaux. Et les travaux de qui? Ben, soit les travaux des Hébreux, si on va selon Nachmanide, soit les travaux qui était délégué à des contremaîtres égyptiens pour voir que ça marchait bien, que les pyramides étaient bien construites. Donc on peut, à nouveau, Moïse se rend sur le terrain, là où se rencontrent les deux identités qui le tiraillent lui-même. Vayar Ish Mitzri. Et alors il a vu un homme égyptien. C'est-à-dire quoi? Un homme égyptien. Le mot « ish » en hébreu signifie un homme dans ce qu'il a de noble. Il voit donc l'Égypte comme étant noble. « Make ish ivri » frappant un homme hébreu. Donc l'hébreu aussi est noble. Mais à partir du moment où il a vu qui c'est qui frappait, qui était frappé, « me'echav » il décide que c'est l'hébreu qui est son frère. Est-ce qu'il a raison? C'est-à-dire que Moïse a considéré que c'était le dominé qui était l'espoir du monde et que le dominateur, c'est celui qui est dégradé moralement. Donc il avait une sensibilité de romantisme de gauche qui lui faisait dire que c'est le persécuté qui a raison. Et donc, Vayach et ha Mitzri. Et alors il frappa l'Égyptien qui cesse d'avoir le nom de Ish. Vait Menehu Bahol. Et il l'a mis dans le sable. C'est-à-dire qu'il a compris que ce qui resterait de l'Égypte ne serait que ce qu'on trouverait dans les fouilles archéologiques dans le sable de l'Égypte. Bon, une fois qu'il a fait ça, il sort le deuxième jour. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième jour? C'est-à-dire, une fois qu'il a pris position pour Israël au détriment de l'Égypte, eh bien, il s'en va maintenant chez les Hébreux pour fonder l'organisation sioniste mondiale. Et, oui?
Est-ce que ça ne fait pas partie de la faute de Moïse, dont on parlait tout à l'heure, d'avoir tué un homme?
Non, absolument pas. Il avait très bien fait de le tuer. il a très bien fait de le tuer.
C'est...
Oui, évidemment, mais vous savez que ça peut être dit également avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, il y a des situations où il faut être capable d'exercer la violence politique si on veut faire avancer le monde. C'est-à-dire, s'il y avait effectivement une faute du premier assassiné de l'histoire, c'était Hevel, qui a, je reprends très rapidement les enseignements du Midrash, lorsque Caïn se lève pour le tuer, il se lève, c'est donc qu'il était couché. Où est-ce qu'il était couché? Manitou reprenait l'enseignement du Midrash, il était couché sous Abel. Parce que Abel était très fort. Et quand il a vu que Caïn voulait le tuer, il l'a plaqué au sol. Et alors, Caïn le regarde dans les yeux et lui dit, « Mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents ?» Donc il le lâche et Caïn se lève et le tue. Et ça veut dire qu'il y a eu une incapacité, une très grave faute morale de Abel de considérer que les valeurs qu'il engage lui engagent déjà l'assassin. Et donc la faute de Abel est très grave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est fait assassiner. Sa faute était de se laisser tuer. Et on peut dire que le projet d'Israël, c'est justement d'être capable de faire l'amour et la justice. C'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Il y a en Occident une tradition transmise par le christianisme qui est que la seule valeur morale, c'est la charité et l'amour, la pitié. Tandis que faire la justice est un moindre mal. C'est un mal nécessaire, mais c'est un mal quand même. Et s'il y a un chidouche, une innovation morale dans la tradition d'Israël, c'est justement que la justice... La charité sans la justice n'a pas de valeur morale. Elle est finalement une acceptation du mal. Donc accepter le mal au nom de la morale est en fait immoral. Donc Moïse avait raison de tuer l'Égyptien. Il y a simplement un petit problème, c'est qu'il y a un Midrash qui dit que lorsque, au moment de mourir, Dieu va voir Moïse et lui dit « Tu sais, tu vas mourir ». Et Moïse dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et il dit, ben, tu as tué l'Égyptien. Le Midrash rajoute, sans me demander mon avis. Et Moïse répond, oui, mais moi j'en ai tué un, toi tu les as tués tous. Et Dieu lui répond, oui, mais moi je peux les ressusciter, toi tu ne peux pas le ressusciter. Donc il y aurait effectivement toute une étude à faire là-dessus. Mais on peut dire que l'acte de Moïse quand il tue l'Égyptien, c'est le début de la conscience morale. Maïmonide nous dit... que c'est grâce à cela qu'il est devenu prophète, quand il a été capable d'agir pour faire la justice. D'ailleurs, vous savez que pour les chrétiens, à quoi sert le Messie? À faire l'amour. Et nous, on n'a pas besoin de ça, parce que nous savons déjà que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, on n'a pas besoin du Messie pour ça. Mais ce que vient faire le Messie, selon les prophètes, c'est la justice. Maintenant, je reviens à l'histoire de Moïse, donc, qui, le deuxième jour, sort pour rencontrer les Hébreux. Il dit, ben voilà, ils vont m'accepter, puisque j'ai pris parti pour eux. Et il voit deux Hébreux qui se disputent. Il dit au méchant, pourquoi tu frappes ton prochain? Il dit, de quoi tu te mêles? Ah bon, ben, ça veut dire quoi, de quoi tu te mêles? Moi, je suis le prince d'Égypte. Tu vas me dire à moi de quoi je me mêle? Mais ça veut dire que, ça veut dire qu'en fait, ce que disait l'Hébreu à Moïse, c'est tant que tu étais du côté des Égyptiens, tu nous dominais, donc tu avais le droit de nous dire ce que nous devons faire. Mais maintenant que tu as quitté les Égyptiens, que tu veux rentrer dans notre cadre à nous, eh bien, t'as qu'à te présenter aux élections consistoriales. Après, on verra. D'accord? Et il lui dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse répond, et la réaction de Moïse, c'est « Vaïra Moshe, Vaïomar ». Moshe a eu peur et dit « Achen noda adavar ». Maintenant, la chose est connue. Quelle chose est connue? À nouveau, il faut relire Rashi. Rashi dit que Moïse a dit « Maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'ils sont en esclavage ». C'est-à-dire, Moïse s'est dit « J'ai fait une erreur en prenant parti pour Israël. Je vois qu'ils sont une société corrompue. Une société corrompue, il vaut mieux qu'elle soit asservie. » Et donc Moïse revient sur sa décision de sauver Israël. Mais il ne peut plus réintégrer l'Égypte, parce que l'Égypte est disqualifiée à ses yeux. Il ne peut pas intégrer Israël, puisque Israël est disqualifié à ses yeux. Et donc c'est un homme sans place. Pharaon veut le tuer. C'est-à-dire, Pharaon disait, si tu étais chez les Hébreux, bon, je t'accepterais en tant que dirigeant des Hébreux. Mais maintenant tu n'es accepté nulle part, je vais te tuer.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait de...
Parce que c'est un personnage dangereux. Il est en dehors de l'ordre du monde. C'est-à-dire, c'est un anarchiste, d'une certaine manière. Il va remettre en question l'ordre de la société. Et donc, le pharaon veut le tuer. Et donc, Moshe prend la fuite. Il s'en va en Midian. Vayeshev, Beres Midian, Vayeshev à la Ber. Il s'installa dans le pays de Midian, il s'installa auprès du puits. Vous avez remarqué que le verset est un peu lourd. Il dit deux fois il s'installa. Il s'installa, pourquoi? Parce qu'il fallait, nous dit Rashi à nouveau, « Mi Yaakov avinu lamad », il a appris chez Yaakov. Qu'est-ce qu'il a vu chez Yaakov? Que Yaakov a trouvé son zivouk, sa femme, auprès d'un puits. Et pourquoi apprendre ça de Yaakov? On peut apprendre ça de tas de monde. Il y a d'autres manières de rencontrer sa femme. Pourquoi est-ce qu'il faut justement qu'il apprenne chez Jacob? Parce que Jacob, quand il a rencontré Rachel auprès du puits, il a fondé le peuple d'Israël. Donc, fonder, trouver sa femme auprès d'un puits, ça veut dire fonder un peuple. Et donc, ça veut dire que Moïse, c'est comme ça que Manitou a interprété ce texte de Rashi, pensait réaliser le projet d'Abraham à travers une autre nation, une troisième nation, les Midianites. Les Midianites qui étaient descendants d'Abraham par Ketura, sa troisième femme. Et donc, les Midianites, dans les traductions en français, on dit Madianites, mais c'est la même chose. Donc, Moshe se rend en Midian. Il rencontre là-bas un sage, Yitro, et Moshe pense donc transformer Midian en cette collectivité qui va continuer l'histoire. Et donc il va épouser la fille du prêtre de l'endroit, et il va pendant 40 ans se promener dans le désert avec les troupeaux de son maître. Vous vous rendez compte? Donc Moshe devient dirigeant de brebis pendant 40 ans et il les amène à la montagne de Dieu, El Har HaElohim. C'est-à-dire qu'il fait des exercices, quoi. Et à ce moment-là, vous avez la révélation prophétique du buisson ardent et Dieu dit à Moshe, Ra'o, ra'iti et oni ammi, asher b'mitzrayim. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Manitou interprétait celui qui est en Égypte, pas celui que tu penses. C'est-à-dire, tu t'es trompé en pensant que ça serait Midian qui va continuer l'histoire. C'est mon peuple qui est en Égypte. Mais alors, L'objection de Moshe est évidente. Ils sont une société corrompue. Et là, il faut lire le texte. « Oni, ami, la pauvreté de mon peuple, et il n'y a pas de pauvreté si ce n'est dans la sagesse, en ani et la bedat, la pauvreté de mon peuple vient du fait qu'ils sont en Égypte. C'est l'Égypte qui les a rendus comme ça. Donc tu vas les faire sortir d'Égypte et tu vas voir. » Et à ce moment-là, il lui dit « Mais je vais te donner deux rôles. Tu vas aller voir le Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas voir le Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple. Si Moïse doit voir le Pharaon, ça veut dire que Moïse est un opposé du Pharaon, c'est donc un Hébreu. Mais s'il fait sortir Israël, c'est que Moïse est un Égyptien. Parce qu'on ne peut pas se libérer soi-même de sa prison. Et donc, le discours de Dieu est paradoxal. Il lui dit, tu vas aller chez Pharaon, donc tu es Hébreu. Tu vas faire sortir les enfants d'Israël, donc tu es Égyptien. Réponse de Moshe, Vayomer Moshe El Hashem, mi anochi. Et alors Moshe dit à Dieu, qui je suis ? Qui est l'Ech El Paro ? Parce que tu m'envoies pour que j'aille chez Pharaon. Vechi otzi eti bene Israël, meretz Misraim, et que je fasse sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et Dieu lui répond, mais je serai avec toi. Il ne lui répond pas en vérité. Et on voit dans tout le comportement de Moshe, dans toute la Torah, il y a cette tension intérieure, qui je suis ? Et finalement, il y a tout un dialogue extrêmement long. Et Moïse dit à Dieu, mais Shelachna biatishlar, envoie celui que tu envoies. Rashi, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Qui c'est celui que Dieu a l'habitude d'envoyer ? Ben, c'était son frère à Moïse, Aaron, qui lui vivait parmi les Hébreux depuis sa naissance, qui n'avait pas quitté l'Égypte, et qui était connu, c'était le rabbin du coin. Et il était prophète, Moïse. Aaron. Et donc quand Moïse dit « Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer », il pense à quelqu'un, il pense à son frère. Il dit « Il sera mieux accepté, lui, parce qu'ils le connaissent bien. Moi, ça fait déjà 80 ans que je suis en dehors du coup. » Et donc, et Dieu lui répond « Vayihar afashem b'moshe » et Dieu s'emporta contre Moïse. Il y a eu une colère divine contre cette réaction. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Moïse disait « Ils ne vont pas m'accepter parce que je n'ai pas l'air religieux. Je ne parle pas, je ne parle pas leur langue. Je dois transmettre une sagesse ancestrale en termes de culture générale. Mais je ne sais pas le faire, ça. Comment ils vont accepter ? Ils vont me dire « Tu n'as même pas l'accent. » Soit yiddish, soit judéo-arabe. Enfin, tu ne sais pas parler, tu parles égyptien, toi. Et Dieu se met en colère contre Moshe. Il dit, Allo, Aaron, Achicha, Lévi. Vois que ton frère, Aaron, le Lévite, c'est-à-dire le rabbin du ghetto, Yadati, je sais, Kidaber, Yedaber, Hu. Il ne cesse pas de parler. Ça veut dire, qu'est-ce que faisait Aaron depuis des dizaines d'années en Égypte ? Il disait aux enfants d'Israël, chers frères, chères sœurs, ne vous en faites pas, viendra un jour où Dieu nous fera sortir d'ici. Viendra un jour où Dieu nous fera sortir d'ici. Ne vous en faites pas, il faut avoir de la émouna. Il faut se renforcer dans la foi d'Israël. Nous avons une promesse de nos ancêtres. Ça viendra, ne vous en faites pas. Alors Dieu dit à Moshe, tu veux que j'envoie quelqu'un comme ça ? Yadati kidaber yadaber, où il ne sait que parler. Toi, tu es un homme politique. Donc tu sais les faire sortir. Tu vas pouvoir enfin fonder un congrès. À Midian, tu as fondé l'État hébraïque. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Bon, d'accord. Vous faites bien le rabbin, vous faites bien les sermons, oui. L'imitation.
Oui. Oui.
On dit que Moïse était bègue et qu'il avait peur de parler.
Alors c'est quoi justement ce bégaiement de Moïse ? Justement, c'est cette incapacité de se faire comprendre, parce qu'il n'est pas dans le coup. C'est-à-dire, il appartient à un autre univers conceptuel.
Il y a le midrash avec le charbon.
Oui, il y a plusieurs midrashim. Mais cette histoire du charbon, justement, c'est qu'il hésite entre l'Égypte et Israël. Et la Torah rajoute, oui, mais Moïse a quand même son inquiétude de ne pas être accepté par les milieux rabbiniques. Et donc Dieu lui dit, « Ine yotze likratecha » Voilà, il sort à ta rencontre. « Veraacha » Il te verra. « Vesamach pelibo » Il se réjouira dans son cœur. Ça veut dire ce que Dieu a dit à Moshe, « Sache qu'il y a dans le corps rabbinique, il y en a qui ont de la sympathie pour ce que tu fais. Le Rav Kook est avec toi. Donc tu peux y aller. Oui ? Oui. Non, mais il y a une chose très importante. Je pense que votre question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Aaron ? C'est parce que l'événement de la sortie, c'est la sortie de quoi ? Donc qui c'est qui sort ? C'est l'Égypte ou Israël ? En hébreu, vous dites Yetziat Mitzrayim. Il faudrait dire Yetziat Israël, c'est Israël qui sort. Ou bien Yetziat Mi Mitzrayim, de l'Égypte. Et le terme traditionnel, c'est la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui sort. C'est-à-dire l'événement de la sortie d'Israël d'Égypte, c'est un événement de portée universelle. C'est pour sauver l'Égypte. Et s'il n'y avait pas eu quelques Égyptiens qui s'étaient associés à notre sortie, eh bien cette sortie aurait été un échec total. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que Moshe veut faire sortir des Égyptiens avec lui. Et que lorsque le bon Dieu dit à Moshe, tu sais, je vais les détruire, tes amis que tu as amenés d'Égypte. Et Moshe répond, mais si tu fais ça, je vais devoir partir en Égypte en ramener d'autres. D'accord ? Et donc, il a fallu qu'il y ait un représentant de ce qu'il y avait de meilleur dans la civilisation, dans la culture politique de l'époque. Imaginez par exemple, je sais pas, un dirigeant hébraïque qui aurait appris la science politique chez les nations, et lorsqu'il a vu quand il a vu un Égyptien qui frappait des réfus, il a dit ben il faut faire quelque chose, et il avait les capacités de le faire. Bon, pour continuer, tout cela nous amène, et là je vais combien de temps déjà on a
voilà. Oh là là. Il reste 20 minutes.
20 minutes, c'est très bon, d'accord. Il y a une autre fonction que va remplir Moïse, c'est celui de donner la Torah. Et alors là, on voit un autre scénario tout à fait différent. Lorsque Moïse va voir les enfants d'Israël et leur dit, voilà, Dieu veut vous faire sortir d'Égypte. Mais dans quel but ? Ce que dit Moïse explicitement, il ne leur raconte pas du tout ce qu'il a entendu au buisson ardent, qu'ils arriveront au Sinaï, tous ces machins-là. Ce que Moïse dit aux enfants d'Israël, il leur dit, le bon Dieu, il vous a fait une promesse à vos ancêtres. Et cette promesse, c'était de leur donner le pays de Canaan. Et Dieu a vu que vous avez assez souffert, il s'est souvenu de son alliance, il va vous faire sortir pour vous ramener en Canaan. Ce discours était connu des enfants d'Israël avant que Moïse ne vienne. Ils savaient par tradition de leurs ancêtres que viendrait un jour, ils rentreraient dans le pays de leurs ancêtres. C'est-à-dire que ce que les Hébreux attendaient de leur Dieu, c'était de les faire sortir d'Égypte et de leur donner leur terre. Ils n'avaient jamais entendu parler de la Torah. Et lorsque les enfants d'Israël arrivent au pied du mont Sinaï et qu'ils campent, et viennent les journalistes et leur demandent, voilà, vous êtes interviewé par la presse de Midian en direct, qu'est-ce que vous faites ici au pied du Sinaï ? D'où venez-vous ? Eh bien, l'Hébreu répond, nous venons d'Égypte. Ah oui ? Ah, et où est-ce que vous allez ? On va dans le pays de nos ancêtres. C'est où ça, au fait ? C'est en Canaan. Ah ah. Et celui-là, là, qui est à votre tête, c'est Moshe, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous amène en Canaan. Mais alors pourquoi est-ce que vous campez ? Parce qu'on est fatigué, on ne peut pas marcher tout le temps. Alors c'est une des étapes. Combien de temps vous allez rester ici ? Quelques jours, puis après on continue. Pendant que le peuple campe, Moïse prophétise. Ou Moshe Allah Ela Elohim. Et Moshe monte vers Dieu. Vaikra Ela Vashem Inahar les morts, et Dieu l'appelle de la montagne en lui disant, Kotomar les Bet Yaakov et Taged Ibn Israël, ainsi tu diras à la maison d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai pris sur les ailes des aigles. Ve'ataim shamuat ishmeu bekoli, ushmartem et biriti, v'item li segbula mikola amim kili kola aretz. Et maintenant, écoutez ma voix, devenez pour moi un trésor d'entre les nations, car à moi appartient toute la terre. Va'atem tiouli mamlechet kohani ve'goy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Elle est à dévarer ma chère Tédaber et Béni Israël. Voilà les choses que tu dois dire aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Moïse doit dire aux enfants d'Israël qu'ils sont venus au Sinaï, non pas parce que c'est une étape, mais parce qu'il y a aussi une mission universelle et spirituelle, une religion, si vous voulez, une Torah, qui doit leur être donnée. C'est en route, vous allez recevoir également la Torah. Qu'est-ce que fait Moshe? Vayavo Moshe, vayikra les ikneam, vayasem lifnem kol dvarim alei asher tzivahu Hashem. Moshe appelle les anciens du peuple et leur présente toutes ces choses que Dieu a dit. Alors, imaginez-vous un moment que vous êtes un enfant d'Israël qui sort d'Égypte, qui attend d'entrer en Canaan, et brusquement votre dirigeant vous dit au milieu de la route, au fait, il y a une Torah à recevoir. Vous dites, mais c'était pas dans le programme. Oui? Personne ne leur a demandé.
Si vous
voulez accepter la Torah, non, mais... Oui. Ah, oui, justement. Mais c'est ça, exactement, c'est le texte que nous sommes en train d'étudier. Et qu'est-ce qui se dit dans ce texte? C'est que le peuple répond à Moshe. Vayahanu kol ha'am yardav. Et le peuple tout entier répondit. Et là, c'est très surprenant. Vous allez, il faut être attentif au texte. Non, pas du tout. Vous avez... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous citez un verset du chapitre 24, tandis que là, je suis dans le chapitre 19. Vayahanu kol ha'am yardav les morts. Et le peuple tout entier répondit. Kol asher diber Hashem na'ase. Tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Ça veut dire, nous n'avons pas confiance en toi. Ça veut dire, ce que Dieu nous a dit, c'est-à-dire que tu vas nous amener en Canaan, ça on accepte, ça fait partie de notre tradition ancestrale. Mais toi, tu veux nous imposer ta philosophie religieuse, que tu as élaborée quand tu étais en Midian. Peut-être que tu viens au nom d'un autre Dieu. C'est quoi ces histoires? On ne nous avait pas dit qu'on allait recevoir la Torah. Vayachev Moshe divrei ha'am el Hashem. Et alors Moïse ramena les paroles du peuple à Dieu. En d'autres termes, il dit à Dieu, je leur ai dit, ils ne veulent pas. Bon, continuons. Oui, allez-y.
Depuis le buisson ardent, il a beaucoup dit à Moshe Rabbeinu, Tarabou et Elohim à la raser.
Oui, bien sûr.
Bien dès le départ.
Ah oui, bien sûr, mais bien sûr, Moïse était tout à fait au courant. Dieu lui a dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Simplement, il ne l'a jamais dit aux enfants d'Israël, c'est tout. Et il a été le raconter au Pharaon, et les enfants d'Israël étaient persuadés que c'était un subterfuge. C'est-à-dire, vous allez voir le Pharaon, vous lui dites, voilà, nous voulons sortir d'Égypte, ne plus jamais revenir et fonder un État limitrophe de l'Égypte qui va mettre en danger l'Égypte. Alors, vous mettez le pharaon, on dit, ça va pas la tête. Ça en dit que Moïse vient voir le pharaon, il lui dit, voilà, on a un sacrifice à faire. On a des raisons religieuses. Mais le peuple est persuadé que ce discours de Moshe en face du pharaon, c'est simplement un prétexte. Parce que quand Moshe parle avec les enfants d'Israël, il leur dit, la seule chose qu'il leur dit, c'est que Dieu veut accomplir sa promesse. Et sa promesse est de vous donner la terre d'Israël. Ça, on oublie ça. Ce qui est dit dans le buisson ardent n'a jamais été communiqué aux enfants d'Israël, puisque... Le Ta'avdoun est à Elohim à la raser, si on prend le verset tout entier, il lui dit, Vezé lecha ha'ot ki anochi shelarticha, pour prouver que c'est vraiment moi qui t'a envoyé, eh bien ça sera connu lorsque vous servirez l'Éternel sur cette montagne. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'avaient les enfants d'Israël de la motivation de la sortie d'Égypte. Pour eux, c'était rentrer en Eretz Israël. Maintenant, continuons. Donc Moshe vient voir à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, ils ne veulent pas entendre, qu'est-ce que je fais? Et là intervient un verset surprenant. Vayomer Hashem el Moshe. Et alors Dieu dit à Moshe, puisque c'est comme ça, Hine anochi ba elecha be'aveanan. Alors je veux venir à toi dans l'épaisseur de la nuée. Ba'avur yishma ha'am bedabri imach, afin que le peuple entende lorsque je te parlerai. Ve'gam becha ya'aminu leolam, ils auront foi également en toi. Ce qu'on voit bien, que donc ce verset est une réaction. À la parole des enfants d'Israël. C'est-à-dire, les enfants d'Israël sont prêts à croire en Dieu, ils ne sont pas prêts à croire en Moshe, quand il affirme qu'il donne la Torah. Et effectivement, Rashi le dit là-bas en toutes lettres, et c'était cité par Manitou très souvent, mais c'est également repris par le Rambam et par Rabbi Yehuda Halevi, quand ils ont dit « Eno domé ashomea Mipi hameler ke shomea mipi ashaliar. Ce n'est pas la même chose d'entendre directement du roi que d'entendre de son délégué. Retsonenu lirot et malkenu. Et donc nous voulons voir notre roi. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Si le délégué y transmet les paroles du roi, c'est comme entendre la parole du roi. Simplement, ça veut dire c'est pas la même chose parce que c'est moins fiable. Ça veut dire que d'après Rashi, ce qu'avait dit le peuple dans le verset précédent, c'est qu'il n'acceptait pas Moïse en tant que celui qui donne la Torah. Et effectivement, donc Dieu dit, puisque c'est comme ça, il y aura révélation directe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la révélation directe? Le premier verset des 10 commandements, vous le connaissez certainement, je crois, Anochi Hashem Elohecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Ibet Avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Cette phrase, si on l'analyse du point de vue grammatical, la syntaxe, ça veut dire « je suis le même ». C'est-à-dire, quand elle dit « voilà, tu sais, je suis Georges, nous nous sommes rencontrés hier au marché ». Si Georges a le même aspect qu'hier, il n'a pas besoin de le dire. C'est « mais Georges hier vendait des tomates, et aujourd'hui il est en tuxedo avec une coupe de champagne ». Alors, j'ai un moment d'hésitation. Est-ce que c'est lui ? Et alors Georges vient me dire « je suis le même ». D'accord ? Eh bien, c'est la même chose avec le bon Dieu. Il dit, tu sais, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et Rashi là-bas, à nouveau Manitou a interprété celle de Rashi, que dit, Rashi dit, puisque Dieu leur était apparu en tant que, sur la mer, en tant que héros de guerre, que Gibor Milchama, Vekan ke Zaken Malé Rachamim, et là comme un vieillard plein de miséricorde. C'est-à-dire, sur la mer Rouge, ils ont vu un Dieu guerrier, politique. Et au mont Sinaï, ils ont vu un dieu miséricordieux, un Rosh Yeshiva. Alors ils se sont dit, et Rashi rajoute, « Altomru rashuyot arbehen » Ne dites pas qu'il y a deux divinités. « Anochihu » Je suis le même qui t'a fait sortir d'Égypte et que tu as vu sur la mer. C'est ce que dit Rashi. C'est-à-dire que, en fait, il a fallu la révélation directe du Sinaï pour réconcilier les deux aspects de la divinité. Et ça, ça explique exactement ce qui se passe avec Moshe. Parce que si vous demandez aux religieux qui est Moshe, ils vont dire Moshe, Rabbeinu, c'est celui qui nous a donné la Torah. Si vous demandez aux chilonim, les laïcs, qui c'est Moshe, ils diront, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense, lui ? C'est le même, qu'il y a un seul Moshe. C'est-à-dire que le bleu et blanc, c'est aussi bien la couleur du drapeau d'Israël que la couleur du tzitzit, des franges qu'on met au talit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a unité du national et du religieux, et ça, pour être confirmé, il a fallu la révélation du Sinaï. Et si on comprend bien ça, ça explique ce qui se passe dans le dernier discours de Moshe avant sa mort. Lorsqu'il dit « Écoute Israël », qui est Israël dans ce discours ? À qui parle-t-il ? Non, il ne parle pas à Jacob. Jacob était mort depuis longtemps. Hein? Aux Hébreux. Tous? À tous les Hébreux? Sauf un, lui-même. Il n'a pas dit écoutons, il a dit écoute. Ça veut dire que Moshe a dit écoute Israël. Hachem Elonu, Hachem Echad, nous avons le même Dieu. Parce qu'on aurait pu penser que ce n'est pas le même. Effectivement, cette phrase, selon la tradition, a été prononcée par les enfants de Jacob sur son lit de mort, quand Jacob a eu une inquiétude pour savoir est-ce que tous ses enfants font partie de l'Alliance. Ils lui ont dit, écoute Israël, Israël c'était Yaakov lui-même, notre Dieu c'est le même. Eh bien, Moshe a jugé nécessaire au moment de sa mort de dire aux enfants d'Israël, ben vous savez, on a le même Dieu. Et c'est, si vous voulez, c'est un travail qui se fait au cours de l'histoire de réaliser cette union entre le projet national d'Israël et le projet de la Torah d'Israël. Parce qu'on peut prendre la Torah sans Eretz Israël. Ça devient le christianisme. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on dise Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, et c'est devenu une mitzvah d'être récité tous les jours, aussi bien le matin et le soir, dans la vie de chacun des enfants d'Israël. Vous comprenez la profondeur de l'enjeu. Il y a simplement un petit problème, il me reste encore combien de temps ?
10 minutes, juste, j'en profite.
Oui.
Enfin, vous dites la Torah sans Israël, c'est le christianisme. Bon, oui. Qu'est-ce que vous faites de l'orthodoxie qui soutient malgré tout en partie cette position ?
Écoutez, Manitou disait toujours, vous comprenez à quoi je ne fais pas allusion. Oui. Oui. Pour en revenir à un dernier point, il y a quand même quelque chose de très surprenant à la fin de la Torah, c'est que Moïse meurt. Il meurt, donc il a échoué. Il n'a pas réussi à entrer en Eretz Israël. Il n'a pas réussi à être le Mashiach. C'est-à-dire, l'histoire a été repoussée de plusieurs milliers d'années. Mais pourquoi ? Eh bien, vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début de notre étude, que Moïse avait cette capacité de modestie de Hanava. Or, ça c'est un enseignement du Rav Kook. Pour amener la délivrance, il faut un élément supplémentaire dans l'être d'Israël, c'est la chutzpah. La chutzpah, l'effronterie. La Gemara nous dit, Beikvot Meshicha chutzpah yazge. Au moment du messianisme, c'est l'effronterie qui va dominer. Or, ça c'est un enseignement, le Rav Kook dit, pour enseigner la Torah, il faut qu'il y ait de l'humilité chez l'élève. Si l'élève n'est pas capable d'humilité, il n'y a pas de Torah. Et Moshe se voyait plus comme enseignant de la Torah qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à accéder à la dimension politique totale et qu'il a fallu le Mashiach pour compléter ça. Et
vous pouvez préciser là juste là.
Oui, je vais aller plus loin. Il y a un moment dans la vie de Moshe, raconté par la Torah, où Moshe a été découragé. Ce n'était pas le veau d'or. Lorsque Moshe a vu le veau d'or, pas de problème, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il descend de la montagne, il brise les tables, il tue 3000 personnes, il brûle le veau, il le donne à boire aux enfants d'Israël, il remonte sur la montagne pour demander le pardon du peuple, il amène des nouvelles tables et il fait le tabernacle. Il connaît son travail, pas de problème. Il voit l'idolâtrie, mais il sait comment on réagit. Mais dans le livre de Bamidbar, quand le peuple demande à Moshe, il n'y aurait pas de la viande par hasard. Et alors Moshe dit, je ne peux plus. Il demande à Dieu, tue-moi. Horgen inaharog. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont demandé simplement s'il n'y avait pas de la viande cachère dans le coin. Il y avait comme disait d'ailleurs Manitou, il cherchait un restaurant bête dîne. C'est un restaurant où les gens bêtes dînent. Et... Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave à demander de la viande ? Et le Rav Kook dit, parce que demander de la viande, c'était de la chutzpah. Et Moshe a dit, s'il y a de la chutzpah, j'ai rien à faire là. Je n'ai rien à faire là. Parce que moi, j'enseigne de la Torah. Et si j'enseigne de la Torah, s'il y a de la chutzpah, il n'y a pas d'enseignement possible. Et donc Moshe a dit, je veux mourir. Et en fait... le Mashiach, par contre, lui, selon la tradition, vient de Moab. Moab était le fils de la fille de Lot. Et elle a proclamé que son fils venait de son père, Moab. Donc elle n'a aucune gêne. Et c'est justement ça qui a été l'origine de la capacité du Mashiach de découvrir la sainteté qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. Et tant qu'on n'est pas capable d'intégrer l'élément de sainteté qui se cache dans cette chutzpah, on n'est pas encore capable d'accomplir l'histoire. Pour une raison très simple, la hanava, c'est ce qui permet de recevoir la Torah d'en haut. La chutzpah, c'est ce qui permet de recevoir la divinité d'en bas. Et c'est ça qui a manqué à Moshe, et c'est la raison pour laquelle l'histoire s'est dédoublée de plusieurs milliers d'années. Enfin, ça, Alva, et qu'on soit au moins comme Moshe.
Pourquoi finalement le rôle de cette chutzpah si important
Oui, bon, ça, c'est lié à un enseignement du Rav Kook que Manitou reprenait très souvent. C'est l'idée qu'il y a ce qu'on appelle la sainteté dans la nature. La chutzpah, la Gemara explique, ça veut dire le fait de prendre le pouvoir sans avoir été couronné. C'est-à-dire, on n'a pas reçu l'aval d'en haut, on s'auto-proclame comme étant l'autorité. Or, c'est exactement la définition de la chilonout, de la laïcité juive. Et cette laïcité, elle peut faire croire que le peuple d'Israël s'est détaché de son Dieu. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est la révélation du Dieu d'Israël dans son unité totale. Et cette unité doit inclure également l'élément naturel qui se manifeste en premier lieu par un mouvement de rejet, qui après sera réintégré dans la sainteté. Je voudrais vous citer à ce propos, je suis assez clair, oui. Oui, un enseignement du Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira, c'est un petit midrash dans lequel on raconte le chant qui est récité par chaque animal. Et puis ça finit par le chant des chiens. Les chiens, selon les Midrashim, c'est la bête effrontée par excellence. La chutzpah. Vous savez, je passe dans la rue, moi qui suis le joyau de la création du monde, puisque je suis un homme, il y a un chien qui aboie. Quelle chutzpah ! De quoi il se mêle, ce chien ? Et alors, c'est quoi le chant des chiens ? Et alors, le Midrash nous dit, ben, c'est Bou. Bou. C'est oui, un aboiement. Bou, nishtachave, venichra. Allons nous prosterner et nous courber. Nivrecha, lifne Hashem, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Ça veut dire qu'à travers cette chutzpa se cache une profondeur d'acceptation du joug céleste qui vient compléter la tradition de sainteté de l'histoire.
Alors comment ça se passe pour les laïcs aujourd'hui, par exemple, la possibilité de ce renversement?
Bah, écoutez, c'est tout un travail. C'est-à-dire que nous sommes en train de refonder une société qui va permettre le retour de la dimension prophétique, ce qu'on appelle la civilisation prophétique dans l'histoire. Et pour ce faire, il faut un contact avec la nature. Vous savez que quand on parle de retour à la nature, quand nous autres, les Juifs, nous entendons des goïms dire « il faut revenir à la nature », ça nous fait peur un peu. Pourquoi ça nous fait peur? Parce qu'on se dit « la barbarie est au coin ». Et ça, on a vu plusieurs fois dans l'histoire que ceux qui ont prôné le retour à la nature sont tombés facilement dans la barbarie. Et tandis que en Israël, il y a ce qu'on appelle une ségoula, une capacité intrinsèque d'opérer une rencontre entre la sainteté de la nature et la sainteté de la morale. Et c'est ce projet qui se réalise de manière existentielle dans l'État d'Israël de nos jours, à travers les interactions entre les différentes factions du peuple. C'est-à-dire, si on cherche le juif de l'avenir, ça sera ni le religieux, ni le laïc. Ça sera ce qu'il y a de meilleur dans le religieux, ça s'appelle les mitzvot, et ce sera ce qu'il y a de meilleur dans le laïc, c'est ce qui s'appelle la liberté. Et c'est dans cette conjonction que sera possible la restitution, la restauration d'un profil humain qui permettra le retour de la culture prophétique.
Vous levez la main, je vous passe le micro, vous levez, qu'on vous entende bien.
Est-ce qu'il y a liberté quand il y a mitzvot ?
Je reprends la question. Est-ce qu'il y a liberté quand il y a mitzvot ? S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de mitzvot. C'est-à-dire, le fait d'avoir un commandement suppose la possibilité de la transgression. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de transgression possible, il n'y a pas de mitzvah non plus. C'est-à-dire, si la pluie tombe, elle n'est pas louée pour avoir fait pousser le blé. Et si un volcan entre en éruption, il n'est pas condamné pour avoir enterré des gens. C'est seulement si on a la liberté qu'une action peut être condamnable ou louable. C'est-à-dire, si elle peut être une mitzvah ou une transgression, une avéra.
Ça marche dans un sens, mais est-ce que ça marche dans l'autre aussi? C'est-à-dire que si on a... Est-ce que la mitzvah, en gros, permet la liberté?
La mitzvah, tout à fait, permet la liberté. Je suis libre de faire une action et de savoir quelles sont les conséquences.
Et sans ça?
Sans ça quoi?
Sans mitzvah, est-ce que je ne peux pas être dans une situation de liberté?
Non, on peut très bien être libre sans mitzvah, évidemment. C'est-à-dire que c'est à un homme libre que les mitzvot ont été données. Ce n'est pas la mitzvah qui crée la liberté. C'est parce que l'on est libre que l'on a reçu la mitzvah. D'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah dans le traité de Avot. C'est quand on est libre que l'on peut étudier la Torah. Elcha ben Chorin et la Mishnah Osek ba Torah.
J'ai cru comprendre qu'à travers le peuple, à travers Moab, nous avions besoin de cette effronterie. Mm-hmm. Or, le peuple de Moab a été interdit aux
Juifs. Oui.
Alors, quel est ce paradoxe?
Oui, c'est-à-dire, le peuple de Moab a été interdit jusqu'au moment où Boaz a interprété la Torah en disant « Un Moabite est interdit, mais pas une Moabite. » Il a découvert quelque chose qui permettait de réintégrer Moab. Et puis après, même le Moabite, beaucoup plus tard, peut être intégré, puisque la Mishnah nous dit que depuis que Sanhérib a mélangé les nations, eh bien même les Moabites peuvent participer. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui permet d'intégrer le Moabite.
François, je voudrais revenir sur... l'acte commis par Moshe vis-à-vis de l'Égyptien,
oui,
qu'il le tue.
Oui.
Vous avez parlé de justice. Or, dans la tradition, pour que je sache, un homme ne peut pas faire justice soi-même. Comment les sages expliquent cette contradiction? Merci.
Bon, vous avez tout à fait raison, dans la tradition chrétienne, un homme ne peut pas faire justice soi-même. Tandis que la Mishnah, la Gemara dit expressément dans le Talmud qu'on peut se faire justice à soi-même selon certaines conditions. Mais Moïse est dans une situation de juge dans cette histoire. Or, le juge a le devoir de juger.
Oui, il y a un Midrash qui dit qu'il s'est mis en position d'être effectivement d'exécuter un jugement dans cette situation.
Il était prince d'Égypte, c'est tout. Vous avez... Oui.
Vous levez, s'il vous plaît.
Donc, si j'ai bien compris votre intervention, vous expliquez...
Parlez bien dans le micro. Quoi.
Vous expliquez que Moshe Rabbeinu n'est pas capable d'être machiav parce qu'il n'est pas capable d'être effronté. Et que c'est l'effronterie qui, en fin de compte, est l'indice qui va permettre au machiav de se révéler. Si j'ai à peu près compris ce que vous allez dire. Bon, cependant, dans la Gemara Brachot, on rapporte que Moshe Rabbeinu, justement, est un de ces personnages avec Rana qui a été capable d'effronterie en accusant Dieu d'avoir été la cause du veau d'or par le terme d'Isaab. Donc on voit particulièrement chez Moshe Rabbeinu cette capacité à être effronté. Donc je ne comprends pas trop la conclusion par rapport à cette distinction. D'ailleurs, dans la tradition kabbalistique, il s'avère qu'en fin de compte, c'est Moshe Rabbeinu qui sera le Mashiach.
Vous avez presque compris ce que je disais. C'est-à-dire, non pas que... Non, c'est très bien. Ça me permet de rectifier le tir. Moshe... pour être le Mashiach, aurait dû apprécier l'effronterie des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il doit être par lui-même effronté. L'effronterie à laquelle vous vous référez fait partie de son message prophétique. C'est-à-dire, dans sa discussion personnelle entre lui et le Créateur, il se permet effectivement ses réprimandes. Mais quand ça passe aux enfants d'Israël, alors là, il a une difficulté à l'admettre. Et c'est pour ça que les kabbalistes nous disent que l'âme du premier homme s'est scindée en deux, qu'une moitié est arrivée chez Moshe et l'autre moitié chez le Mashiach.
Cela dit, on a du mal à faire quand même la synthèse pour un élève, par exemple. Vous dites qu'il faut effectivement avoir de la modestie pour recevoir. Et en même temps, il faudrait être effronté. Comment on peut concilier
Disons,
les deux?
C'est très simple.
Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise effronterie?
Disons, il y a ce qu'on appelle accepter le cours de l'histoire, c'est-à-dire être attentif au cours de l'histoire. Et ça, Manitou l'enseignait très souvent. Il y a des processus qui ne dépendent pas de nous, mais auxquels il faut être attentif. C'est-à-dire réconcilier, surtout, est un processus qui demande une intervention du Créateur lui-même. Il y a une phrase extrêmement pessimiste, selon l'enseignement de Manitou, une phrase d'Enrico Macias, « Ose shalom bim romav » où il y a assez shalom aleinu. Ce qui veut dire, ce n'est que celui qui est capable de faire la paix dans ses hauteurs qui pourra faire la paix sur nous. Et donc, il est très surprenant qu'on chante ça avec tellement de joie.
Bravo pour l'allusion. Alors, on continue quelques questions encore.
Je voulais juste vous demander le nom de la femme de Moïse. Je crois qu'elle n'était pas juive.
Vous avez posé deux questions.
Ah, Tipora. C'est ça.
Le nom de la femme de Moïse, c'était Tzipora. Elle n'était pas juive parce que, ça c'est un enseignement du Maharal de Prague, Moïse étant tout le peuple d'Israël, s'il épouse une des filles d'Israël, il se particularise dans une famille. Donc il doit épouser soit toutes les femmes d'Israël, soit une extérieure.
D'accord. Donc en fait, dans ce cas-là, on accepte...
Les mariages mixtes.
Le mariage mixte.
Voilà.
Trop facile.
Alors, est-ce que ça... Il faut que vous répondiez. Trop facile de dire trop facile. Bon, vous ne voulez pas vous engager sur ce débat? Ok, je retourne chez monsieur là-bas.
À la fin de votre exposé, je me dis toujours, mais il y a des Moïse. Combien d'habits a porté ce Moïse? Il a été une fois égyptien, hébreu, juge, prophète, porte-parole de Dieu. Enfin, c'est tout ça en une vie, c'est considérable. C'est énorme. Comment une personne comme Moïse, qui a effectivement échappé à la mort, alors son prénom, pourquoi il s'appelle Moïse, c'est autre chose, c'est parce que dans la tradition, y compris maintenant dans la tradition juive, quand quelqu'un est sauvé de la mort ou presque, on lui change son prénom. Donc peut-être qu'effectivement, le terme de Moïse vient de là, le fait qu'effectivement, il ne faut pas qu'on rappelle qui il était avant. D'autre part, vous nous disiez qu'un juge avait le droit content.
Elle avait le devoir.
Le devoir de tuer. C'est pas son boulot, le juge. Il y a des gens qui s'en prennent pour ça. Et puis, c'est pas son boulot de cacher le cadavre de celui qui l'a tué. C'est pas son boulot non plus. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre un peu tout ça. Et voilà.
D'accord. Bon, je voudrais vous rappeler comment Manitou était inspiré par Moïse. C'est que Moïse, Manitou a commencé en se prenant pour un juif d'Afrique du Nord, dans sa communauté. Et puis un jour, il a cru qu'il était français. Et puis un jour, il a compris qu'il était israélien. Et il a dit, c'est la même chose qui s'est passé avec Moïse. Il a commencé par se prendre pour un hébreu d'Égypte. Et à un moment, il a cru qu'il était égyptien. Et puis à un moment, il a commencé à croire qu'il était midianite. Et après, il a compris qu'il était hébreu. Et Manitou disait qu'il y a des intellectuels juifs qui, souvent, ont la démarche de Moïse à Midian. Et qui se rendent un peu partout dans le monde, à la manière de Jonas à Ninive. Et qui croient vraiment qu'ils sont les porteurs d'une parole morale cosmopolite pour l'humanité. Et qui ne comprennent pas que ça passe par Israël. Mais il dit, nous sommes très patients par rapport à ces intellectuels, parce que Moïse aussi, ça lui a pris du temps, mais finalement, il a réintégré son peuple. Le travail du juge, justement, c'est de prendre la responsabilité de son jugement. Vous savez que dans la tradition occidentale, quand quelqu'un est condamné à mort, eh bien, il y a quelqu'un dont c'est le travail. Hein, c'est son boulot au bourreau de faire son office. Et d'après la halakha, c'est exactement le contraire. Celui qui doit mettre à mort le condamné à mort, c'est le témoin. C'est-à-dire, si on est capable de témoigner contre quelqu'un pour qu'il soit condamné à mort, il faut prendre la responsabilité de ses actes. Et c'est ça la grandeur, justement, morale du juge, d'être celui qui va prendre la pleine responsabilité de son jugement.
Merci de votre intervention. Vous pouvez juste, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris, la sortie d'Égypte. Vous avez un petit peu...
Ah oui, j'étais un peu vite. Oui, mais on est obligé d'aller un peu vite. La sortie d'Égypte, en hébreu, Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que c'est l'Égypte qui sort. C'est-à-dire qu'il y a une finalité universelle à la libération d'Israël. C'est-à-dire l'objet de la libération d'Israël n'est pas de libérer une nation, mais c'est de libérer l'ensemble des nations. Et ça se passe à travers l'histoire d'Israël. C'est Israël qui enseigne la liberté aux hommes. Il y a un texte du Rav Kook à nouveau, mais aussi un texte du Rabbi Yitzhak Abravanel qui va près dans le même sens, qui est que une fois qu'Israël est sorti d'Égypte, alors tout le monde sait que la liberté est possible. Avant, personne ne le savait.
Bonsoir, Caroline Alten. Merci beaucoup, Monsieur Charpy, pour ces informations très intéressantes sur ces sujets du judaïsme. J'ai deux questions pour vous. Vous avez mentionné les tzitzit lors de votre présentation. Comme vous le savez, Moïse et les Hébreux ont découvert dans le Sinaï, dans le sud du Sinaï, probablement à Dizahav, autour de 1260 avant notre ère, le Hilazon et le mode de manufacture du Techelet. Et donc ma première question, c'était de savoir si vous pensez, comme beaucoup de sages, si justement l'identité réelle du Hilazon et le mode de manufacture de création du Techelet serait révélée lors de l'ère messianique par le Mashiach lui-même. Voilà. Et la deuxième question est plus simple. Je voulais savoir ce que vous pensiez du niveau du lac
Kinneret actuel. Il y a peut-être un rapport entre les deux questions, mais enfin, vous allez peut-être le trouver.
Bon, la première question est la plus simple. Ce n'est pas le Mashiach qui va nous apprendre quel est le Techelet, puisque nous avons découvert à nouveau de nos jours l'identité du coquillage qui fait le Techelet. C'est le Murex tronculus, ça a été prouvé scientifiquement. Personnellement, je porte le fil bleu fait à partir de ce coquillage. Ça commence à être diffusé en Israël et ça coûte cher. Comme le Techelet, d'ailleurs, qui coûtait très cher. Pour ce qui est du niveau du Kinneret...
Est-ce qu'il y en a qui sont contre le fil bleu?
Oui, bien sûr, c'est controversé, comme tout sujet en halakha, c'est évident. Si c'était pas controversé, ça serait plus une halakha. pour ce qui est du niveau du Kinneret, eh ben, je souhaite une bonne santé à notre lac.
Je voudrais poser une petite question d'actualité, si vous voulez bien. On arrive dans le peuple juif, comme vous nous avez dit, avec beaucoup d'intelligence, tout ce qui s'est passé. On arrive au bout de l'exil et on arrive dans un état et on arrive aujourd'hui à vouloir créer un homme universel. Et je ne comprends pas aujourd'hui l'antagonisme qu'il y a entre les orthodoxes et le peuple d'Israël d'une manière générale, qui est plus ou moins en respect de la religion, en respect des traditions, en respect de... Pourquoi il y a un tel antagonisme et que le pouvoir orthodoxe a une telle influence?
Bon, je vais vous dire quelque chose.
Merci.
Le Rav Kook, quelqu'un a demandé au Rav Kook, comment se fait-il que les Juifs de Gola s'entendent tellement bien entre eux? Vous arrivez dans une communauté de Gola, et bien vous voyez qu'il y a différents mouvements, différentes sortes de Juifs, de toutes sortes, et puis ça s'arrange bien, il y a une activité communautaire commune. Et en Eretz Israël, et bien ils sont tellement affrontés. Et le Rav Kook a répondu, c'est parce qu'en Gola, ce sont des liquides, et les liquides se mélangent bien. Tandis qu'en Eretz Israël, ce sont des solides. Et les solides ne se mélangent pas bien. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement une boutade. Ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui, c'est du solide. Et c'est du solide, et donc les enjeux sont grands. Donc les affrontements sont violents, non pas parce que les Juifs sont méchants, mais c'est parce qu'ils prennent à cœur. Et ils prennent à cœur le devenir de l'histoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, c'est là qu'ira l'histoire. Et donc, on comprend que les frictions sont très fortes, mais justement parce que tout le monde comprend qu'on est engagé dans un même bateau. À part ça, quand vous parlez également, disons, de division, il y a des factions dans le peuple juif. Je pense qu'il y a ici une différence entre la tradition séfarade et la tradition ashkénaze. Chez les séfarades, majoritairement, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de division claire entre le religieux et le non-religieux. Il y a différents niveaux d'observance, selon un certain pourcentage, un certain dosage chez chacun. Et c'est parce que nos frères séfarades ont un avantage qui est également un défaut, c'est qu'ils n'aiment pas les idéologies. Et nos frères ashkénazes, par contre, ont un défaut qui est un avantage, c'est qu'ils veulent justifier de manière idéologique leur comportement. Et donc, quand vous avez en Israël à la fois des séfarades et des ashkénazes, ça devient un mélange détonnant. Mais vous savez, j'ai une maladie assez grave qui est ce qu'on appelle de l'optimisme chronique. Et je pense que, justement, ces frictions entre les différentes factions vont favoriser justement une évolution, une évolution de l'identité. Donc je pense que vos inquiétudes, bien que tout à fait vénérables, ne sont pas justifiées.
Pour faire la prière, il faut être libre.
Bien sûr.
Un homme libre. C'est-à-dire qu'il a été très loin, et ça bouscule un peu l'assistance, en disant que quelqu'un de malade était dépendant, il ne pourrait pas prier librement. Quelqu'un qui est prisonnier, qui aurait besoin de la prière, il ne pourrait pas prier aussi librement parce qu'il est sous dépendance.
Voilà. C'est un vaste sujet.
Bon, c'est un sujet passionnant. Simplement, quand on est en prison, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. C'est-à-dire, être libre ou ne pas être libre est une question d'état d'esprit. Je connais, par exemple, en Israël, quelqu'un qui a été prisonnier pendant près de 10 ans en Union soviétique. Il s'agit de Nathan Sharansky. Qui, lorsqu'il était dans son cachot, était l'homme le plus libre de la planète, alors que ses geôliers étaient les esclaves.
Voilà, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup, cher Kook, pour ça fait quand même 3 heures qu'on sollicite non-stop sans que vous ayez la moindre faiblesse. Merci vraiment beaucoup d'être venu jusque-là.
Merci à tout le monde et merci à Olivier Cohen.
Voilà.